Nous écoutons pour aujourd'hui l'un des trois textes qui nous sont proposés et qui est assez long, vous le verrez, dans l'Évangile selon Jean au chapitre 9.
Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent « Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Donc, qui a péché, lui ou ses parents ?» Jésus répond « Ni lui ni ses parents, mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après que Jésus a dit cela, il crache par terre. Avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit « Va te laver dans l'eau à Siloé. » Le nom Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle y va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Cet homme était un mendiant. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir avant disent « Est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était assis et qui mendiait ?» Les uns disent « Oui, c'est lui ». D'autres disent « Non, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais l'homme dit « C'est bien moi ». Alors, les gens lui demandent « Tes yeux se sont couverts comment ?» Il répond « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il l'a mise sur mes yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et maintenant je vois clair. Les gens lui demandent « Où est-il cet homme ?» Il répond « Je ne sais pas ». On conduit chez les pharisiens l'homme qui avant était aveugle. Le jour où Jésus a fait de la boue et a ouvert les yeux de l'aveugle, c'était le jour du sabbat. Les pharisiens, eux aussi, demandent à l'homme « Tu vois clair maintenant? Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» L'homme leur dit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Quelques pharisiens disent « L'homme qui a fait cela ne vient pas de Dieu. En effet, il ne respecte pas le jour du sabbat. » Mais d'autres disent « Un homme qui est pécheur ne pourrait pas faire des signes aussi étonnants. » Les pharisiens ne sont pas d'accord entre eux. Alors, il demande encore à l'homme qui était aveugle « Et toi, qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux ?» Il répond « C'est un prophète. » Mais les chefs juifs ne veulent pas croire que cet homme était aveugle et que maintenant il voit clair. C'est pourquoi ils font venir ses parents et ils leur demandent « Est-ce que cet homme est bien votre fils ? Vous dites qu'il est aveugle depuis sa naissance ? Maintenant, il voit. Qu'est-ce qui s'est donc passé ?» Les parents de l'homme répondent « Nous le savons, c'est bien notre fils, il était aveugle depuis sa naissance. Maintenant, il voit clair. Mais ce qui s'est passé, nous ne le savons pas. Qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas. Interrogez-le. Il est assez grand, il répondra par lui-même. » Les parents disent cela parce qu'ils ont peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci se sont déjà mis d'accord. Ils vont chasser de la maison de prière tous ceux qui affirment Jésus est le Messie. C'est pourquoi les parents de l'homme disent « Il est assez grand, interrogez-le. » Alors, pour la deuxième fois, les pharisiens appellent l'homme qui était aveugle et lui disent « Dis la vérité devant Dieu. Nous le savons, celui qui t'a guéri est un homme pécheur. » Il leur répond « Je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une seule chose. J'étais aveugle et maintenant je vois clair. » Il lui demande « Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» L'homme leur répond « Je vous ai déjà dit, mais vous n'avez pas écouté. Vous voulez entendre une deuxième fois, pourquoi donc ? Vous avez peut-être envie de devenir les disciples de Jésus, vous aussi. » Alors, ils se mettent à l'insulter. Ils lui disent « C'est toi qui es le disciple de cet homme. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais cet homme-là, nous ne savons pas d'où il vient. » L'aveugle guéri leur répond « Voilà une chose étonnante, il m'a ouvert les yeux, et pourtant, vous ne savez pas d'où il vient. Nous le savons, Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. On n'a jamais entendu dire quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme qui est né aveugle. L'homme qui fait cela vient de Dieu, sinon il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondent « Depuis ta naissance, tu es tout entier dans le péché. Et tu veux nous apprendre quelque chose ? » Alors, ils le mettent dehors. Jésus, apprend que les pharisiens ont mis dehors l'homme aveugle. Jésus va donc le trouver et il lui dit, « Est-ce que toi, tu crois au Fils de l'homme ?» L'homme lui répond, « Seigneur, qui est-ce ? Je veux croire en lui. » Jésus lui dit, « Eh bien, tu le vois, celui qui te parle maintenant, c'est lui. » L'homme dit, « Seigneur, je crois. » Et il se met à genoux devant Dieu. Ensuite, Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. » Voilà le jugement. Quelques pharisiens sont là. Ils entendent les paroles de Jésus et ils lui demandent, « Est-ce que nous sommes aveugles nous aussi ?» Jésus leur répond, « Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas pécheurs. Mais en fait, vous dites, « Nous voyons clair. C'est pourquoi vous restez pécheurs. »
L'idée m'était venue en relisant ce passage de venir ce matin avec un énorme seau avec de la terre dedans pour que chacun puisse prendre une petite poignée de terre dans sa main, cracher dedans, en faire une petite boulette de boue et l'étaler, alors pas sur les yeux du voisin, ça peut poser problème, ça gênerait, mais au moins sur ses propres yeux, mais ça supposait beaucoup de déplacements, donc vous y échapperez faute de temps. L'année prochaine, peut-être. L'idée reste bonne. Le récit que nous venons d'entendre est probablement, même chez Jean, avec ses chapitres très longs, l'un des récits de guérison les plus longs, avec un contre-interrogatoire donc qu'on imagine un peu intense comme ça, stressant, et puis un dénouement inattendu et une punchline, on peut le dire, à la fin, qui cloue le bec des interrogateurs. Ce qui frappe, c'est pas seulement la guérison elle-même, parce qu'il y en a bien une. Il y a quelqu'un qui est sauvé là-dedans, ou qui est guéri, ou qui ne voyait pas et qui voit. Quelqu'un qui est transformé. Sauvé, peut-être dire transformé. Il y a autre chose, il y a tout ce que cette guérison révèle de notre manière de voir et de comprendre le monde. Au début du récit, Jésus rencontre un homme aveugle de naissance. Les disciples posent immédiatement la question, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» La question fuse comme ça, naturellement. La question peut sembler assez rude, déplacée même. Poserions-nous une question comme celle-là ? Peut-être pas. Elle est profondément humaine, en tout cas, parce que devant la souffrance, la nôtre, ou celle des autres, nous avons besoin d'une explication. C'est fréquent. Nous voulons comprendre pourquoi ces choses-là arrivent. Ça ne peut pas être une simple anomalie, ça ne peut pas être une aberration statistique. Enfin, il doit bien y avoir une raison. Et souvent, nous cherchons aussi quelqu'un à qui attribuer la responsabilité. C'est lui ou ses parents ? C'est pas normal, et quelqu'un a dû faire quelque chose. Il nous faut une raison et un responsable, ou une responsable. Mais une fois la raison et le responsable ou la responsable trouvée, on n'a toujours pas l'ombre d'une solution, bien sûr. Derrière la question des disciples, qui est celle de toute l'époque, sans doute aussi celle des pharisiens, qui lui remettent cette accusation, mais sous forme d'affirmation et un peu plus tard, et sous une autre forme, mais c'est la même chose. Il y a quelque chose d'assez constant finalement dans l'humanité. On peut se dire que c'était une vision du monde très répandue dans l'Antiquité. Nous, évolués, avons dépassé ces choses-là. Mais si quelqu'un souffre, nous ne pensons pas forcément que c'est que quelque chose de mal a été fait. La souffrance n'est pas forcément la conséquence d'une faute. Et pas si certain que nous soyons sorti de ce genre de quête éperdue d'une raison et d'un responsable. Si nous sommes honnêtes, nous devons bien reconnaître que ce réflexe n'a pas complètement disparu. Quand quelque chose de difficile arrive, nous nous demandons encore qu'est-ce qui a causé cela et qui est responsable. Nous cherchons une logique et une culpabilité, une raison, un responsable. La réponse plutôt de Jésus à la question posée déplace radicalement la question. Il ne dit pas, il ne donne pas de raison justement et ne cherche pas un responsable. Il dit très exactement, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, ce n'est pas le problème finalement. mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il ne faut pas tabler sur la grande clarté non plus de la réponse de Jésus ici, c'est pas évident, mais en tout cas, au moins, il ne cherche pas dans le passé ce qui a pu provoquer par un enchaînement déterminé, impossible à déplacer, impossible à changer, quelque chose de mal qui nous précède. Il évite complètement cette chose-là et se demande « qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour cet homme ?» Il ne se demande pas d'où vient le malheur. Il demande implicitement, dans cette phrase un peu pas totalement claire, que peut-il se passer maintenant pour lui? La question n'est plus celle de la culpabilité, ça devient celle d'une possibilité. Qu'allons-nous pouvoir faire pour lui? On s'oriente alors vers la recherche d'une solution, ce n'est pas trop tôt. C'est une manière assez libératrice de regarder la vie, le monde et les autres qu'on nous indique ici dans une simple réponse. Quand nous restons enfermés dans la recherche des causes et des responsabilités, ce qui nous arrive souvent, nous pouvons finir par figer les choses, puisque nous regardons des choses figées. Nous figeons en elles, nous restons dans l'analyse, le jugement, et on n'en sort pas. Jésus, lui, ouvre un chemin en se plaçant tout de suite dans l'action. Il fait quelque chose. C'est très différent. Alors, le geste qu'il accomplit est très étrange et, encore une fois, nous ne le ferons pas ce matin, mais je n'abandonne pas l'idée. Il crache par terre, sur de la terre plutôt, fait de la boue avec de la poussière, il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit d'aller se laver à la piscine de Siloé, qui n'est pas une piscine municipale bassin olympique de 50 mètres, mais un lieu rituel où on va se purifier. C'est un lieu religieux et c'est là qu'on doit aller, avec la présence d'un prêtre pour accomplir un rite de purification qui accompagne en tout cas la foi de celui qui veut être guéri. C'est un lieu très particulier. Mais quand on voit comment Jésus s'y prend, on suspecte un peu l'exercice illégal de la médecine, on se dit, pas de chance vraiment pour ce gars qui est né aveugle. Il passe de la bigoterie des disciples qu'il accuse de tous les maux, y compris ceux qu'il n'a pas fait. On lui reproche des choses dont il n'est pas responsable. On passe de la bigoterie à la charlatanerie, d'une certaine manière. Donc, ce pauvre homme a certainement dû rêver d'autre chose. Pourquoi ce geste? Bon, c'est emprisonné sans doute dans les manières de faire de l'époque, mais la procédure en réalité est tout à fait classique, même si le geste nous apparaît étrange. Nous ne nous y prendrions pas comme cela. La guérison, ici, est le processus habituel. Elle passe par un mouvement et par une participation de cet homme à qui on fait une promesse, qu'il a saisie, se met en marche et va là où il doit aller pour que cette chose arrive. Il participe à son salut, à sa guérison, en l'accueillant, pas en le fabriquant. L'homme doit se lever, se mettre en route et aller se laver. Et c'est seulement ensuite qu'il voit. Ce n'est pas Jésus qui est un opérateur de miracles. C'est parce qu'il s'est levé qu'il voit. La transformation dans ce texte, et comme dans la vie d'ailleurs, n'est pas toujours instantanée, pour nous non plus. Elle implique souvent un cheminement. Nous connaissons tous des moments où nous avons l'impression de ne pas voir très très clair. Une situation personnelle, une décision difficile à prendre, une relation compliquée. Nous avançons parfois un peu à tâtons, comme dans une semi-obscurité. Nous n'y voyons pas toujours très clair. Et pourtant, peu à peu, parce que nous avons décidé de ne pas rester dans les choses figées, quelque chose bouge, se transforme. Une compréhension nouvelle apparaît, une lumière se fait. Et dans ce récit, la guérison physique dit cela. Elle dit ce mouvement. Elle devient l'image même de ce mouvement de confiance qui fait que nous allons vers une guérison, une lumière accrue. Voir ne signifie pas seulement ouvrir les yeux, ça signifie aussi comprendre autrement. L'homme qui est guéri accède à cette vision intégrale, alors qu'il en était privé jusque-là, toute la lumière d'un coup, et ceux qui ont l'habitude de voir, même en écarquillant les yeux, n'y voient pas plus clair. Vous voyez le contraste, si j'ose dire. C'est ce qui apparaît dans la suite du texte. Les voisins, les gens du quartier commencent à discuter entre eux. Il s'est passé quelque chose. Certains disent que ce n'était pas lui qui était assis dans un coin là-bas à mendier, à tendre la main comme ça, et d'autres hésitent en se disant « Non, c'est quelqu'un qui lui ressemble, ça ne peut pas être lui. » Et c'est lui qui doit insister et répéter plusieurs fois « Non, non, c'est bien moi. Et maintenant, je vois. » Et en pensant peut-être « C'est vous qui ne voulez pas voir. » Ce moment est assez intéressant parce que même quand quelque chose d'étrange, réellement, il faut parfois du temps pour en prendre conscience soi-même et pour aussi que les autres le reconnaissent. Le regard des voisins ne va pas changer tout de suite. Ils restent prisonniers de l'image ancienne. Pour eux, c'était l'aveugle auquel on avait fini par se faire, finalement. Il était assis dans son coin, il nous allait bien comme ça. C'était l'aveugle du quartier, le mendiant que tout le monde connaissait, et voilà qu'il voit. Il est difficile d'accepter qu'une personne ne soit plus enfermée dans l'identité que nous lui avons peut-être donnée, et dans laquelle nous l'avons coincée, peut-être. Nous faisons parfois la même chose. Nous classons les gens, nous identifions quelqu'un à un rôle, une fonction, une situation, un moment de la vie. Et nous prions ces gens d'y rester pour que ce soit plus simple pour nous, pas pour eux. Quand cette personne change, quand quelque chose évolue, notre regard met du temps à s'ajuster. La presbytie, peut-être. L'homme guéri, lui, ne fait pas de discours compliqué, il raconte simplement ce qui lui est arrivé, il n'a pas autre chose à dire. Je ne voyais rien, et maintenant je vois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il l'a mis sur mes yeux, il m'a dit d'aller me laver, et maintenant je vois, je n'ai rien d'autre à dire, vous avez le déroulement des événements, je ne peux pas dire mieux. Témoignage très simple, aucune théorie là-dedans, parfaitement convaincant, parce que ça n'était pas essai, tout d'un coup, il n'y a pas meilleure preuve, pas d'argument, pas de théorie, il n'essaie rien d'expliquer de mystérieux. Le mystère de Dieu, de sa guérison, pas de mots là-dessus, il dit seulement une expérience. Je ne voyais pas, et maintenant je vois. Peut-être que la foi commence souvent comme ça d'ailleurs, pas par des certitudes définitives que nous pouvons transformer en discours très longs, mais par l'expérience d'un déplacement intérieur sur lequel il est parfois bien difficile de mettre des mots. Ça arrive. Une lumière nouvelle. Les mots pour raconter tout ça viendront peut-être un peu plus tard. Peut-être pas. Plus loin dans le récit, Jésus prononce ces paroles surprenantes à la toute fin du récit, une fois que la contre-enquête a eu lieu, un peu sévère. Il prononce ces paroles « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » C'est bien la peine. Ça peut sembler un peu paradoxal, mais après l'interrogatoire de l'ex-aveugle qui a dû être sévère, et on pouvait lui mettre une lampe de bureau en pleine figure puisqu'il voyait maintenant, donc on pouvait le traiter comme dans certains commissariats, après ce traitement par les pharisiens, il exprime quelque chose de profond ici. Dans cette histoire, l'aveugle voit, et tous ceux qui pensent voir, ou ceux qui se croient sûrs de leur compréhension religieuse, parce que on n'a pas choisi les pharisiens sans raison, ceux-là deviennent incapables de reconnaître ce qui se passe. Ils voient, ils ont des yeux, ils ont 10 sur 10 à chaque œil, mais ne voient pas ce qui a changé chez quelqu'un d'autre. Ils ne voient pas le salut qui s'est opéré chez lui. La cécité n'est pas facile à guérir, on le voit bien, il faut des procédés un peu longs, un peu exotiques, des onguents hasardeux, Mais guérir l'aveuglement de ceux qui pensent avoir raison, c'est peut-être encore plus difficile. Quelle médecine pour eux? Quel traitement? On peut parier que la boue ne suffirait pas. Il existe une forme d'aveuglement qui consiste à croire qu'on possède déjà toute la vérité. Lorsque nous sommes trop sûrs de nos catégories, nos certitudes, nous risquons de ne plus voir ce qui surgit devant nous. L'aveugle, lui, n'avait aucune prétention, il ne voyait rien du tout. Il ne pouvait pas partir de plus bas. Il ne savait pas comment la guérison allait se produire non plus. Il la suit et il la reçoit. Il a simplement accepté de faire confiance et de se mettre en route. Et c'est en sortant de l'eau, comme d'un baptême finalement, où une lumière nouvelle s'est montrée à lui. La démarche de cet homme n'était pas grand-chose et spirituellement intéressante. Rester disponible, être lavé par d'autres, relevé par d'autres et enfin voir. Voir dans l'évangile de Jean, c'est toujours quelque chose de particulier. C'est souvent apprendre à regarder autrement. Eh bien, le temps du carême dans lequel nous sommes engagés et que nous finissons, nous finirons bientôt, se présente non pas comme un temps de dépouillement et de réflexion seulement, ou de retour à l'essentiel, sans doute, c'est cela aussi, mais on peut le comprendre comme un temps d'ouverture des yeux. Nous aussi, nous finissons par ne plus voir vraiment les personnes, les lieux, les circonstances qui nous entourent, nous les voyons à travers des images anciennes. C'est pratique, nous n'avons pas à les changer. Des jugements rapides, c'est fait. Des souvenirs figés, ils sont à disposition, pas besoin d'aller en chercher d'autres, c'est facile. Peut-être que nous avons besoin, nous aussi, d'un geste symbolique, comme celui que Jésus accomplit, une sorte de lavage des yeux, une manière de recommencer à regarder autrement les personnes que nous croyons connaître, l'Église que nous croyons connaître et que nous voyons peut-être pas changer sous nos yeux pourtant, regarder autrement nos situations de vie, regarder autrement le monde. Il y a dans ce récit une conviction profonde, la lumière peut apparaître là où on ne l'attend pas. L'homme aveugle était probablement invisible et pourtant là, pour la plupart des passants, un mendiant assis au bord d'un chemin, c'est ordinaire, n'est-ce pas? Une silhouette familière qu'on ne remarque même plus, et pourtant, c'est par lui, par ce qu'il fait, par ce qu'il dit à son retour, avec entêtement, je ne voyais pas, et je vois, c'est bien moi, je suis le même, mais je suis différent. C'est par lui que tout le monde voit que Dieu se manifeste, en ne comprenant pas tout de suite, et que Dieu ne se manifeste pas dans ce qui est spectaculaire et puissant. À la fin du passage que nous avons lu, certains pharisiens demandent à Jésus, parce qu'ils commencent à se douter de quelque chose, avec cette histoire de vue, d'aveuglement et de cécité, ils commencent à se sentir visés. Serions-nous aveugles, nous aussi? Un début de révélation. La réponse de Jésus est à la fois gentille, douce et exigeante. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, comme l'autre là, qui n'a rien fait pour mériter ça. Mais vous, vous dites « nous voyons » alors que vous ne comprenez rien. C'est pour ça que votre péché demeure. L'aveuglement le plus profond est peut-être celui qui refuse de reconnaître qu'il pourrait au moins de temps en temps ne pas voir, pas voir correctement, pas voir tout. Reconnaître que notre regard est partiel, limité, parfois trompé, et que ce n'est pas une faiblesse, c'est notre constitution, c'est comme ça. Et l'assumer tranquillement, c'est peut-être au contraire le début de la lucidité, c'est-à-dire de la réception d'une lumière nouvelle. Ouvrir les yeux, c'est bien laisser entrer un rayon de lumière. Il y a toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à découvrir, parce que personne ne voit tout. C'est peut-être pour cela que les récits de l'évangile de Jean nous invite à, en permanence, à marcher, chercher, nous laisser déplacer. C'est ce que Jésus fait avec ses questions, avec ses réponses plutôt, aux questions auxquelles il ne répond pas directement, presque jamais. Comme s'il nous disait « je vais t'inviter à le voir sous un autre angle, ça te fera du bien ». Il s'est simplement levé, cet homme-là, et est allé vers l'eau. Peut-être que nous sommes aussi invités à faire des pas de ce genre, des pas de confiance, même quand, lorsque la lumière n'est pas encore revenue, parce qu'il se lève en ne voyant encore rien du tout. Il est aveugle, il est comme Abraham avec sa promesse d'avoir une descendance, une terre, et se lève sans voir le résultat de cette chose-là. Totalement aveugle, pas de visibilité sur l'aboutissement du projet, dirions-nous. La lumière n'arrive pas toujours d'un seul coup, comme pour cet aveugle, elle peut apparaître progressivement comme un lever de soleil un peu lent. Voilà sans doute ce que notre texte veut nous rappeler en ce temps de carême, que la vie spirituelle n'est pas une accumulation de certitudes solides et qui, en s'accumulant, permettent finalement de monter très haut puisqu'elles sont solides. C'est plutôt un apprentissage du regard et c'est quelque chose qu'il faut recommencer toujours. Ce n'est pas facile d'admettre qu'on ne peut pas accumuler des choses fiables. et qu'il faut remettre toujours le travail sur le métier, sur l'établi. Apprendre à voir de nouveau, malgré beaucoup de gens ont des lunettes ici, alors malgré l'astigmatisme, la presbytie, la myopie, l'hypermétropie et tout le reste, les différentes formes spirituelles de fatigue oculaire, parce qu'on en a marre de regarder un peu partout, les illusions d'optique aussi, parce que notre vision, même avec 10 sur 10, n'est pas parfaite, les gens et les choses qu'on ne voit plus à force de les voir. Il y a une belle expression anglaise pour cela, on dit « to be melt in the wallpaper », ça veut dire littéralement se fondre dans le papier peint, vous voyez ? Et passer dans le décor, quoi. C'est ce que cet homme était pour tous ceux qui avaient l'habitude de le connaître. Il était dans le papier peint, dans le décor. Voir à nouveau la dignité de chaque personne, les possibilités qui existent, même dans les situations difficiles, que nous ne voyons pas, que nous n'entrevoyons même pas. Peut-être aussi accepter que nous ayons parfois besoin d'être guidés, lavés, éclairés à nouveau, parce que la bonne nouvelle de ce récit est toute simple. Même celui qui n'a jamais vu peut apprendre à voir, ça. On avait bien besoin de le réentendre. Et si cela est possible pour cet homme-là, alors c'est possible pour tout le monde. Amen.